faut à ce pays, c'est plus qu'un bâtiment, c'est de l'espoir.
Le pueblo unido jamás será vencido.
De vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
Les peuples ne devraient pas avoir peur de leur gouvernement. Les gouvernements devraient avoir peur du peuple.
Et si on faisait un pas de côté? Si on faisait un pas de côté, on verrait ce qu'on voit jamais. On verrait ce qu'on voit jamais.
Salut, salut, on est sur Wakadi, on a quelque chose à dire, sur diffusé sur Radio Clapas. Ce soir, une émission sur le sport et le handicap, avec beaucoup de questions, notamment de la part de Boris.
Ouais. Hein,
et trois invités, Arnaud Laporte, président de Montpellier Club Handisport, Jean-Marc Barbin, donc, responsable du master de STAPS, et responsable de l'activité physique et sportive à Propara. Et Andreas, qui est aussi un fidèle compagnon de Wakadi, qui est administrateur du club Handisport, on va dire comme ça.
Bonsoir.
Donc, bonsoir tous les trois.
Bonsoir.
Pour animer des Boris.
Bonsoir.
Qui arrive à la bourre, et Capucine à la technique.
Qui ne peut pas dire bonsoir parce qu'elle est trop loin.
Et qui n'a pas de micro. Donc on a souhaité faire cette émission sur le sport et le handicap, puisqu'on se pose beaucoup de questions sur le sport, sur le handicap, sur quelles particularités a le handicap par rapport au sport. On parle de sport comme lutte pour lutter contre l'isolement social, pour s'entretenir physiquement, etc. Et finalement, qu'est-ce qui différencie tant le sport pour les personnes qui seraient porteurs de handicap par rapport à des personnes que vous avez qualifiées de bipèdes, par exemple, tout à l'heure.
Bipèdes, oui, j'aime bien voilà, ce qualificatif. Donc, les valides.
En préparant l'émission très rapidement, juste avant, c'est vrai que je me disais, mais quel est le fil conducteur à un moment donné, puisque quelle est la différence pour une personne handicapée en matière de sport, puisque le sport, comme je disais tout à l'heure, sert aussi à lutter contre l'isolement, mais ça concerne tout le monde. Je veux dire, quelle serait la spécificité pour les personnes handicapées, au-delà de l'aspect technique, etc. etc.
Peut-être une première réaction de nos invités par rapport à quelle est la spécificité du sport pour handicap.
Alors moi, j'aurais tendance à dire que sport, handisport ou sport, c'est la même chose. Ce qui fait la différence, c'est un petit peu le public et les moyens techniques utilisés pour pallier au handicap. Mais sinon, on pourrait parler de sport avec un grand S au sens générique du terme. C'est une activité physique poussée ou non, qui procure du bien-être, qui procure des sensations, qui permet, comme vous l'avez dit, de s'insérer socialement, qui a plein de vertus qui ne sont plus à démontrer dans le sport valide pour les bipèdes, mais qui sont encore à démontrer pour un public handicapé. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est contrairement à ce que je pensais, c'est un vide de connaissances. La plupart des gens ne savent pas qu'on peut pratiquer du sport en étant handicapé, et même des personnes handicapées ne savent pas que leur handicap ne leur interdit pas toute pratique sportive. Donc c'est deux éléments contre lesquels je me bats. Je me considère comme un militant, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. L'idéal étant que on parle plus d'handisport un jour, et que la Fédération Française Handisport, par exemple, existe. Idéalement, c'est le genre d'association qui a vocation à se euthanasier pour se fondre dans le sport en général. On en est loin, je ne sais pas si c'est souhaitable. C'est faisable avec certaines personnes qui ont des handicaps légers. Il va falloir qu'on fasse une petite distinction quand même entre handicap léger, moyen, très lourd. Parce que ce sont souvent les personnes qui sont lourdement handicapées qui pensent que vraiment il n'y a rien à faire pour elles. Ce qui est une erreur. Il y a énormément de personnes handicapées très lourdement. Quand je dis très lourdement, c'est des tétraplégiques hauts qui ont un ou deux doigts qui fonctionnent. Et ben, avec un ou deux doigts, on actionne un fauteuil électrique et on peut faire du foot-fauteuil. C'est un exemple parmi d'autres. Des exemples, on aura l'occasion d'en revoir.
Moi, au-delà de ça, il y a aussi comment dire, pour la personne porteur d'un handicap, elle va aussi porter un handicap social dans le sens de l'accessibilité au sport, qui est plus compliqué. Vous allez dans les quartiers, les gamins descendent avec un ballon, jouent au foot sur un parking de bagnole, etc. Alors que c'est beaucoup plus compliqué quand vous êtes en fauteuil roulant, pour accéder à un club de sport qui serait spécialisé, etc., etc. Je veux dire, quand vous habitez un village au fin fond de l'Hérault, je pense que l'accessibilité au monde du sport, en club, hein, j'entends bien, elle est quand même plus compliquée. Et le fait d'être porteur d'un handicap physique, est-ce que ça ne vous amène pas un handicap social aussi, au final ? C'est pour ça que je parlais d'isolement au départ. Je veux dire, il y a des personnes qui sont précarisées et qui sont victimes de l'isolement social. Je veux dire, mais quand vous êtes porteur de handicap, vous, de mon point de vue, vous pouvez, enfin, vous êtes souvent handicapé sur le plan de la relation sociale, enfin, pour certains.
Alors, à ça, j'ai deux choses à dire. C'est que, par exemple, il y a 20% de bipèdes en France qui sont licenciés dans un club sportif. Ça ne veut pas dire qu'il y a que 20% des gens qui font une activité sportive. Quelqu'un qui va faire du vélo le week-end avec sa famille n'est pas licencié, mais fait du sport. Chez les personnes handicapées, c'est 1%. 20 fois moins. Et effectivement, le transport, c'est le plus gros frein à la pratique sportive, mais c'est aussi le plus gros frein à l'insertion professionnelle, à la vie sociale, etc. etc. Donc, le cœur du problème, avant d'arriver dans un club sportif, effectivement, c'est de se rendre de son domicile à ce club sportif. Et je donnerai un exemple. On a un enfant très lourdement handicapé qui habite Orange, qui vient une fois par semaine depuis Orange à Montpellier parce qu'il ne trouve pas du basket fauteuil, parce qu'il ne trouve pas à plus près que Montpellier depuis Orange.
Donc c'est un problème plus global d'infrastructures adaptées aux personnes portant un handicap.
Enfin, d'infrastructures, de moyens, de volonté politique, ça on y reviendra certainement beaucoup, parce que
bien sûr,
rien ne se fait sans volonté. C'est... Et donc, y a des gens qui peuvent s'équiper une voiture, parce qu'ils ont la capacité de conduire une voiture. D'autres qui sont vraiment tributaires des transports mis à leur disposition. On est sur Montpellier, des tramways accessibles, des bus de plus en plus accessibles, un service de transport adapté, spécialisé, qui est super opérationnel. Donc on est vraiment dans une métropole qui n'a pas tous les inconvénients d'un village reculé au fin fond de l'Hérault ou au centre de la France.
Ou d'une ville socialement sinistrée comme Orange.
Handicap, au niveau du handicap notamment. Le reste, je ne sais pas, j'espère qu'ils vont très bien sur d'autres domaines. Mais c'est vrai que les gens ont ce problème-là qui est le problème principal.
Est-ce que je peux compléter, d'abord dire que ce soir on parle surtout de handicap physique et sensoriel, puisqu'on est dans le cadre donc du handisport, donc à ne pas confondre avec le sport adapté qui s'adresse aux personnes déficientes intellectuelles. Donc aujourd'hui, ou plus exactement ce soir, on va traiter plutôt du sujet du handicap physique, voilà, pour pas que sous la dénomination handicapé, personne handicapée, on y mêle tout.
Oui.
Alors, dans le cadre, donc la question du sport, je crois que les motivations ne sont pas différentes d'une personne dite valide et d'une personne handicapée. Maintenant, reste que, effectivement, on n'est pas sur le même pied d'égalité. Alors, il y a des obstacles qui sont communs. C'est la question, effectivement, de la proximité, c'est la question du coût de la pratique sportive. Entre tout ça va rentrer en ligne de compte. Mais il y a des facteurs supplémentaires qui sont, et donc Arnaud l'a posé, c'est déjà la représentation. La représentation, c'est-à-dire que la personne handicapée, parfois, ne s'imagine pas qu'elle peut faire du sport. Son entourage ne l'imagine pas. Et on peut aller au-delà de cela, c'est-à-dire que le médecin lui-même ne l'imagine pas. Donc il y a déjà un premier frein en termes de représentation. L'idée que l'on
se
fait.
Il y a pas même une crainte. C'est-à-dire, est-ce que. Alors, on pourrait penser même que l'entourage a peur qu'il y ait. Que le sport amène même.
Une
aggravation d'un état physique, etc.
Alors, oui et non.
Par surprotection, c'est des choses qu'on peut voir aussi dans.
Alors, la question de la peur se pose aussi. Ça peut être aussi un frein. C'est la peur de la douleur, par exemple.
Oui.
On avait fait un travail, justement, auprès de personnes donc, atteintes de myopathie. Et ils avaient, sur le questionnaire, c'était elles étaient désireuses de faire du sport. Et en même temps, alors même quand on leur apportait des solutions, donc la question du transport, la question de l'activité adaptée, etc., eh bien, ces personnes ne s'engageaient pas. Et en fait, elles ne s'engageaient pas parce qu'elles avaient peur qu'à travers la pratique, elles réveillent à nouveau la douleur. Elles n'avaient pas envie de connaître la douleur. Et en fait, il y a là aussi donc, à établir un climat de confiance. Donc, c'est pas si simple que ça. Donc, pour en revenir à la question des obstacles, c'est la notion de représentation. Alors, effectivement, hein, donc, la peur, soit véhiculée par l'entourage ou par la personne elle-même, de la douleur, d'aggraver sa situation. C'est souvent par méconnaissance. Donc, ça, c'est l'obstacle premier. Et puis après, eh bien, on parlait d'aspect financier. Eh bien oui, il faut savoir que faire une pratique sportive, aujourd'hui, ben, vous sortez, vous avez envie de faire un footing, ben, je dirais à la limite, vous avez besoin de rien, vous pourriez même le faire pieds nus. Personne qui est en fauteuil roulant, eh bien, se pose la question, vous allez me dire, peut le faire avec son fauteuil. Ben, parfois, le fauteuil n'est pas adapté. Il se pose tout de suite la question de l'investissement financier pour le matériel. On a parlé de proximité, ben on peut parler aussi d'accessibilité, c'est encore un obstacle. Et puis c'est la façon dont vous êtes accueilli. Je peux vous donner des exemples. Vous arrivez dans une piscine, la première des choses qu'on vous demande, c'est de vous déchausser. Vous êtes avec une prothèse. Bon, eh ben, cette prothèse, donc cette jambe que vous n'avez plus, elle est remplacée par une autre artificielle. Et il va falloir à un moment donné que vous accédiez au bord du bassin, mais seulement il faut enlever les chaussures. Comment on va vous interpeller? On va dire, enlevez les chaussures, mais comment? Il n'y a pas de fauteuil pour aller jusque là-bas. Je vais y aller à cloche-pied, je vais aller comment? Donc selon comment vous êtes accueilli, ça peut être aussi un frein, c'est-à-dire que je peux être motivé, et puis lorsque j'arrive, donc là où je vais faire ma pratique comme les autres, parce que je suis amputé et je peux pratiquer, je n'ai pas besoin de rentrer dans un club handisport, je peux le faire librement, sauf qu'on m'a accueilli froidement. On a posé sur moi l'élément que je voulais finalement laisser anodin, c'est-à-dire ne pas me faire remarquer comme personne handicapée. Et tout d'un coup, on m'a pointé du doigt. Ben, c'est tout ça. Donc c'est dire que la personne handicapée n'est pas différente de la personne valide en termes de motivation. Les obstacles restent encore très nombreux, malgré tout ce que l'on peut laisser croire. Ils restent encore très... Il reste majoritaire. Donc,
les univers sont exclus, hein, en fait. Les univers de ce que vous appelez les bipèdes.
Les univers, il y a des univers qui sont effectivement excluants. Donc ça procède effectivement d'un effort qui se produit entre les gens qui forment la société, les personnes valides, les politiques. Tout un chacun. Donc c'est vraiment la notion de solidarité, elle est là présente, hein. Et c'est pas la compassion que vient rechercher la personne handicapée. C'est pas de faire les choses parce que vous avez pitié de moi, hein. C'est d'abord de me considérer en tant que personne et non pas personne, oh le pauvre. Ça aussi, ça c'est important.
Alors c'est vrai que bon, j'aimerais bien qu'on discute ensuite de la politique du handicap, autour du handicap, on va dire, ou du handicap et de la politique, hein, parce que ça aussi, il y a un enjeu, hein, on ne va pas se le cacher. Mais le monde du handicap ou du handisport crée aussi ses propres jeux, a priori, puisque voilà, on va découvrir ensemble la boccia, que Boris connaît super bien.
Ouais, moi, je suis spécialiste.
Voilà, que moi, je ne connaissais pas du tout. Je connaissais le torbal,
c'est un des rares sports
que je connais. Alors, on m'a bien appris, puisque j'avais fait l'erreur au départ, hein, on m'avait dit... Je dis, bon, c'est spécifique pour les personnes handicapées. On m'a dit, non, c'est pratiqué par des personnes handicapées, mais en tant que bipède, je peux aussi aller jouer au torbal. Bon. Voilà, j'avais fait cette erreur. Voilà.
Tu t'étais auto-censuré.
Ouais, je m'étais auto-censuré sur le fait qu'effectivement, boum, c'était réservé presque. Voilà. Mais ça aussi, j'aimerais qu'on en parle aussi. Est-ce qu'à un moment donné, les sports pratiqués majoritairement par les personnes handicapées, ou porteurs d'un handicap, on va dire, peuvent être excluants par rapport au bipède à un moment donné. On verra, on en discutera après, on va écouter le reportage sur la boccia.
Non, reviens de ce côté de la ligne jaune.
Ah, je vois Gérald.
Oui.
Alors je vais perdre.
Ah, non, hein. Pourquoi? Parce que je vais jouer avec toi. Pour les
Je m'appelle Mago Didier, j'ai 36 ans, je fais partie du Montpellier Club Handisport.
Est-ce qu'on peut m'expliquer expliquer un petit peu ce que c'est alors la boccia?
Mais la boccia, c'est la pétanque, enfin, c'est un système de la pétanque. Ça se joue en salle et c'est adapté aux handicapés. Après, il y a juste des règles qui changent par rapport à la pétanque normale. Mais sinon, le principe, c'est le même. Il faut essayer de reprendre le point.
Voilà.
Et par contre, on joue ou 2 contre 2, 1 contre 1 ou 3 contre 3.
Et c'est quoi les règles qui changent?
Mais les règles, c'est-à-dire que nous, ça ne s'appelle pas un cochonnet, ça s'appelle un jaca. Après, la différence de la pétanque normale, c'est que nous, on est alignés et non pas chacun son tour dans un rond. Chaque joueur a un espace bien, bien précis. Si par exemple une balle du joueur qui joue sort du terrain, la balle est mise hors concours et c'est encore à l'équipe qui vient de jouer à rejouer.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des appareils adaptés pour aider à la participation du jeu?
Oui, pour les tétraplégiques, il y a une rampe qui il faut qu'il ait un accompagnant pour lui tenir la rampe, pour que lui puisse, il l'indique à la personne qui lui tient la rampe, comment placer la rampe, et après c'est le joueur qui décide quand il lance. Et il y a une différence, c'est que l'accompagnant qui tient la rampe, il n'a pas le droit de regarder le terrain. Enfin, sinon c'est trop facile, il se tourne, il regarde le terrain et il positionne sa rampe par rapport à ce qu'il a vu.
Combien on est?
Là, il y a 2-0.
Oh, il y a 2-0, on est d'accord.
Là, il y a un point pour les rouges.
Et donc, c'est quoi ce tube?
Un tumeur à moi, à boule.
Une rampe qui permet à Yves de jouer avec les balles qu'il ne peut pas lancer à la main. Une dernière.
Et vous jouez à la boccia depuis combien de temps?
Mais ça va faire 3 ans à peu près.
D'accord. Et il y a quoi comme niveau en fait différent pour ce sport?
Ça dépend l'handicap des gens qui jouent, quoi. Mon handicap, c'est que je suis malvoyant.
D'accord. Donc le fait que les balles elles soient colorées, ça vous aide à les voir, à les distinguer de loin?
Mais l'avantage que j'ai, moi, bon, qui suis malvoyant, c'est que à la boccia, le jack, il est blanc. Et le diamètre par rapport au cochonnet normal, il est vachement plus gros, quoi. C'est ça qui m'aide, enfin je parle pour mon cas à moi, quoi. C'est ça qui m'aide à bien me repérer.
Yves qui vient de prendre le point, en se collant au jack. Donc joli coup. Maintenant on a les bleus qui doivent essayer de le reprendre. Didier?
Ouais. Oula, oula.
J'ai la sienne juste devant moi.
Alors encore peu.
Voilà. Le point est revenu au bleu, peut-être un second.
Oh là, oh.
Et il y en aura qu'un.
Ouais, de toute façon, la rouge devant qui me bloque le chemin, moi.
Score final sur la manche, 2 pour les bleus.
2-1, ça c'est.
Score final sur la partie.
2-1 pour les rouges.
2-1 pour les rouges.
Ouais.
Merci messieurs.
Et est-ce qu'on triche autant à la boccia qu'à la pétanque? Alors, on a le droit de tricher ou on n'a pas le droit de tricher? Il y a un arbitre, il y a...
Mais dans le sport, on ne triche pas.
Ah oui, c'est vrai, mince.
C'est un peu paradoxal.
Dans l'activité sportive.
On a le droit
alors
de tricher.
Je vois pas comment on peut jouer à la pétanque sans tricher à un moment donné, quoi.
Non, c'est juste les doses de Ricard qui diffèrent.
D'accord. Okay. Il n'y a pas les mêmes sponsors, alors.
C'est en fonction du traitement médicamenteux de chacun. Tout le monde n'a pas droit aux mêmes herbes dans son... dans sa boisson.
D'accord.
Alors du coup, pour la boccia, c'est pratiqué par des gens porteurs de handicap, par des gens qui ne portent pas de handicap. C'est pratiqué par... Enfin, vous connaissez déjà ce...
Ah oui, oui, oui. Enfin, Montpellier Club Handisport, ça fait 3 ans qu'on a cette discipline. Et c'est une pétanque, effectivement. Mais moi qui suis paraplégique, je suis en fauteuil roulant, je joue à la pétanque avec mon voisin, mon frangin, mes amis, voilà. Ce sport existe parce que les personnes ne peuvent pas pratiquer la pétanque. Une boule de pétanque, si je ne m'abuse, c'est autour de 800 grammes ou quelque chose comme ça. Il y a des gens qui ont la main, le bras, ils ne peuvent pas s'en servir. Alors porter une boule de ce poids-là, c'est inimaginable. Donc c'est pour compenser, pallier et n'importe qui. Enfin, la pétanque fait partie du patrimoine français, quelque part. Ça veut dire que moi, un
bipède, c'est pas un sport dans lequel je m'épanouirais plus que ça, en réalité, non, qui me conviendrait pas, quoi.
C'est un sport qui est adapté à un public donc particulier, donc que l'on classe comme grand handicapé. Alors, qu'est-ce qu'on rencontre, pour donner un exemple? C'est une personne qui se retrouve dans son fauteuil roulant, qui est un fauteuil roulant électrique, et qu'il va commander, par exemple, au moyen d'un joystick, hein, ces petites manettes que l'on retrouve sur les, donc dans ces jeux vidéo. Eh bien, ce joystick, eh bien, il est placé au niveau du menton, donc il n'a que la mobilité de la tête. Eh bien, cette personne peut jouer à la pétanque. Vous allez me dire, mais comment? Eh bien, c'est adapté, c'est-à-dire qu'il y a un matériel adapté. Vous imaginez une forme de goulotte qui va être placée devant, voilà, entre menton et puis donc les jambes. Et puis la personne donc là aussi peut par exemple bloquer la boule au niveau donc du menton. Et il a un assistant qui est dos au jeu et qui va créer l'orientation de cette goulotte, qui va donner la boule donc à la personne, à cette personne donc qui est donc ce fauteuil roulant électrique qui ne bouge que la tête. Et donc cette personne va donner les instructions, considérant que seule peut parler la personne handicapée. La personne valide n'est que l'exécutant dos au jeu, qui ne peut pas s'exprimer et qui doit rester dans un périmètre bien déterminé. Les règles sont très précises. Et si elles sont très précises, c'est tout simplement parce que cette discipline, qui s'adresse aux grands handicapés, est une discipline paralympique. Pour y avoir assisté au premier tournoi régional de botch, eh bien, je peux vous dire que c'est extraordinaire. Donc il y a une place pour...
Botch.
Ah, excusez-moi, ça c'est...
Non, je ne sais pas. Je la découvre.
Voilà, façon... classique Bocha ou Bochia, je sais pas, et puis un peu plus méditerranéen, on dira Bocha.
D'accord.
Voilà, et donc pour conclure, pour avoir assisté au premier championnat régional et avoir donc pratiqué avec une personne lourdement handicapée, ben, je peux vous dire que même dos au jeu, ce qui est très frustrant parce qu'on ne sait pas ce qui se passe exactement, on n'a que les expressions des visages donc, et du joueur et des autres. Eh bien, on est vraiment, on a l'impression véritablement de jouer avec la personne, de faire partie, d'être partie prenante,
être coéquipier
de l'enjeu. Ah oui, tout à fait.
Il y a un besoin absolu d'une personne valide.
Ben, pour une personne qui est dépendante physiquement, à un moment donné, oui. Sinon, comme l'a dit Arnaud, ben un paraplégique fait pas de la botch. Parce que la pétanque existe, il peut aller chercher sa boule, il peut tirer sa boule. Voilà. Là, on est face à des personnes lourdement handicapé, donc qui dit lourdement handicapé dit dépendant. Hein, remettre une veste, par exemple, eh bien, enlever un vêtement, pour ces personnes-là, c'est bien souvent impossible. Donc ce sont vraiment des personnes inscrites dans la dépendance. On fait beaucoup de choses, on va même les aider à manger, à boire, voilà. Mmh. D'accord. Ce sont des personnes qui sont capables, qui raisonnent, etc., qui guident les actions. Mais des actions qui, pour certaines d'entre elles, leur sont impossibles.
Mais moi, j'aimerais apporter une précision, c'est qu'en fait, la personne handicapée qui joue, qui fait cette activité pendant une heure et demie, à ce moment-là, mais son handicap, il est à 10 000 km. Elle n'est pas handicapée. Elle est en train de faire, de concourir, d'essayer d'être le plus près du cochonnet qui s'appelle autrement dans ce sport-là. Mais pendant ce laps de temps, elle n'est pas handicapée, elle est dans ce qu'elle est en train de faire. Objectif, c'est battre l'équipe en face, c'est de faire le meilleur point. Donc, si c'est la seule activité qu'elle va avoir de la semaine, c'est un moment fantastique pour cette personne-là. Ah, mais c'est énorme. C'est peut-être une heure et demie, mais par rapport au quotidien de la personne handicapée dépendante, qui est dans la demande en permanence de service, qui est dans la douleur peut-être aussi, mais pendant cette une heure et demie là, la douleur elle n'existe plus. Il y a la concentration, il y a l'objectif, et c'est ces vertus là du sport que chacun connaît et qui, à mon sens, ont encore plus d'importance pour des personnes lourdement handicapées.
Ouais, moi j'ajouterais deux choses. Alors, je rejoins
ce que tu rajoutes à ce que je rajoute. Non,
non,
mais ce que je après.
Non, non, mais
non, on rajoutera.
Alors, on rajoutera
si ça continue.
Alors, Donc je confirme ce que vient de dire Arnaud. Quand on voit donc les personnes qui jouent, je veux dire, elles sont vraiment prises dans le jeu, alors même que physiquement elles sont très limitées. Mais elles sont dans la stratégie, elles sont vraiment prises dans l'ambiance du jeu. Si on ne regarde que leurs yeux, on voit effectivement que ce sont des compétiteurs à part entière. Donc effectivement, il y a un effacement du handicap. On ne voit plus ça, on voit que la personne qui est prise par le jeu. Qu'est-ce que ça apporte de plus ? Le plaisir du jeu, moi je dirais, c'est se rapprocher à un moment donné de la norme. C'est quoi la norme ? Ben, je vais l'illustrer simplement par l'exemple d'un jeune garçon, là encore myopathe, atteint d'une maladie, donc une maladie dont l'espérance de vie était de 20 années, pas plus. Donc un jeune garçon qui se savait condamné. Et il y avait à l'époque donc une activité qu'on avait mise en place au sein du Montpellier Club Handisport qui s'appelait du hockey en fauteuil, dans lequel on pouvait associer des personnes donc en fauteuil roulant manuel et puis des personnes en fauteuil roulant électrique. Ce jeune garçon, 13 ans, était dans un fauteuil roulant électrique. Et le jour où il a pu faire du hockey et qu'il a pu marquer un but, eh bien là, il s'est rapproché des autres, il s'est senti un peu plus proche de quelqu'un de normal. Vous allez me dire pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que pour lui, qui était passionné de football, qui avait des cousins du même âge, qui racontaient leurs exploits footballistiques, j'ai marqué un but, etc., lui ne pouvait jamais le dire. Et le jour où il a marqué un but, eh bien il pouvait dire comme les autres, j'ai marqué un but. Ben, ça, c'est très très fort. Et là, on peut comprendre effectivement qu'on se rapproche des autres un peu plus. Parce qu'à un moment donné, j'ai pu faire comme les autres. J'ai pu marquer mon but.
Comme ça.
Ben, oui.
Est-ce que cette personne-là va lire chez les autres, chez les valides, chez les bipèdes, cette reconnaissance, c'est-à-dire le but que tu as marqué, il est équivalent à mon but, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une véritable reconnaissance de ce sport-là ? C'est-à-dire que quand vous regardez le public qui regarde, alors là c'est celui qui regarde, mais quand vous regardez le public qui regarde la boccia, est-ce que, alors le public qui s'est déplacé, je présume qu'elle y trouve, elle va y trouver un intérêt, mais je ne sais pas, est-ce que...
Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais je crois que les choses ne se posent pas en ces termes-là, et puis chacun peut penser ce qu'il veut. Certains peuvent dire c'est complètement ça vaut rien ce qu'ils ont fait, etc. Aujourd'hui c'est la Coupe du Monde, mais on s'en fout complètement de la Coupe du Monde. Mais voilà, c'est le jugement qu'on peut avoir, etc.
Par rapport aux événements. Au regard de l'autre qui était important.
Non, ce qui était important.
Prenez l'exemple de la personne qui va à la piscine, etc.
Mais pour reprendre sur ce jeune, lui ce qui était important, c'est que
c'est quelle équivalence je donne à mon exploit sportif par rapport à l'exploit sportif de.
C'est la valeur affective que j'y porte. Elle est intrinsèque à la personne. Effectivement, ce que je voulais dire, c'est que lui, le jour où il a marqué ce but, lorsqu'il s'est retrouvé avec ses cousins, il pouvait dire lui aussi, il pouvait faire partie de la discussion, il pouvait raconter son histoire, alors qu'il n'était que spectateur, il était en marge. Là, symboliquement...
Il a passé la marge.
Exactement. Et ça, c'est quand même... Pour ce jeune garçon, il a fallu qu'il attende 13 ans pour, à un moment donné, pouvoir... se sentir peut-être comme les autres, comme ses cousins, parler des mêmes choses. Hein. Alors la question, est-ce que la valeur de son but était égale à celle des autres ?
C'est pas la question que je pose.
Ah,
c'est pas
parce qu'on s'exprime très mal.
C'est
pour ça qu'il fait de la radio.
C'est pas du tout la question que je pose. La question que je pose, c'est se dire, évidemment qu'un but n'a pas plus de valeur, là n'est pas la question.
Sauf celui de Thierry Henry
au regard des autres. Je veux dire que Thierry Henry qui ne marque pas de but.
Mais si,
avec ses pieds.
Si, il va marquer un. Là, bon, pas laisser les paris parce que le sera diffusé.
J'ai une histoire, mais j'attendrai le jingle pour.
D'accord.
Pour en raconter une sur la question de la main.
Ce que je veux dire, c'est que un but de Zidane, par exemple, dans un sport que tout le monde connaît, là aussi, il y a quelque chose dans le sport qui est le football, va avoir peut-être. Si on raconte nos exploits communs, je ne suis pas Zidane, mais en fait, nos exploits communs, que de marquer un point à la boccia, sport que. Et Boris et moi, nous connaissions pas il y a une heure. Je veux dire, vous me dites avec des yeux très émerveillés, j'ai marqué un point à la boccia. Si moi je vous dis, oui, moi j'ai marqué un but à la Coupe d'Europe de foot, vous
voyez, déjà t'auras menti.
C'est-à-dire, moi je c'est oui, bien oui, pour oui. vous, mais vous voyez, dans les étapes d'intégration, c'est-à-dire, bon, ok, je suis comme tout le monde parce que oui, moi mais... aussi je peux raconter un exploit sportif. Oui. Sauf que mon public, par rapport au sport que je pratique, eh bien, il reste un peu quoi. C'est-à-dire, vous voyez
Moi je dirais que c'est exactement la même chose chez les valides. Mm-hmm. Celui qui joue au foot. Et celui qui fait du curling,
ah ouais.
ils vont se parler ouais, de quoi ils vont. Ah, c'est ben, j'ai choisi cet exemple.
Ou la crosse québécoise.
C'est pas ou la crosse connu. Québécoise, bien et sûr. Qui est... Donc, c'est pas le même sport, et ils vont pas se croiser et ils ont pas la même passion. Maintenant, celui qui gagne son point en curling, il a gagné sa partie, de même que l'autre a gagné sa partie en foot.
Encore moi, je disais que c'était valorisant. Hein. Enfin, que c'était pas valorisant parce que ce sport-là n'était pas... c'était juste parce qu'après, il y avait des niveaux d'intégration qui se situaient sur des sports qui sont plus valorisés que d'autres. Et que je pense que on voit bien la diffusion des jeux paralympiques, etc. Alors, on nous présente les Jeux olympiques, on nous en fait une soupe pendant un mois. Et puis derrière, on nous annonce les Jeux paralympiques dont on ne voit quasiment aucune image.
Et là, donc, un peu la question qu'il y a derrière.
On peut même pas découvrir. Quand vous nous dites que la boccia fait partie des Jeux paralympiques, c'est ce que vous avez dit.
Oui.
Encore faudrait-il qu'on puisse le découvrir. Alors peut-être que ce n'est pas télégénique comme sport, je ne sais pas. Mais...
Non, mais du coup, ça fait un peu la transition avec le côté politique du traitement de l'handisport.
Ouais, c'est-à-dire, est-ce que c'est de l'affichage ? Après la musique.
Est-ce que c'est de l'affichage ?
On va le traiter après la musique. On se retrouve sur l'antenne de Wakadi,
diffusée sur 5.
Voilà, c'est Radio Clapas. Boris y tenait beaucoup. Et,
ben oui,
à vrai dire, moi aussi. C'est vrai qu'on voulait parler du handicap et de la politique du handicap, qui sont deux choses différentes. Mais on a vu notamment au dernier débat présidentiel, Ségolène Royal, Nicolas Sarkozy, se battre, je crois que ça a été le sujet où ils se sont le plus battus, c'était sur leur politique éducative, je crois, en faveur du handicap. Et on a bien senti, alors au-delà de ce débat-là dont on se fout éperdument aujourd'hui, mais on a bien senti que les personnes handicapées étaient aussi des personnes qui votaient, qui étaient des électeurs, et qui avaient un intérêt aussi à pouvoir draguer ce public-là pour les élections. Et donc, quel moyen met le pouvoir politique dans le domaine du handicap, qu'il soit pour le sport d'ailleurs, pour l'accessibilité, puisqu'on a bien compris que en tout début d'émission, sur les infrastructures, sur les transports, c'était intrinsèquement lié à votre activité à vous, hein, puisque on peut aller faire du sport que si on a le moyen de se déplacer vers l'activité sportive, ou qu'on a le matériel pour pratiquer une activité sportive, etc. Donc moi j'aimerais qu'on parle de ça.
Ah, c'est une question un peu ouverte.
Un peu ouverte.
Mais effectivement, je dirais.
Vous voulez que je la ferme un peu ?
Non, je vais.
Ouais, tu vas la fermer, tu vas laisser parler.
D'accord.
Ah, lui, il est là pour faire la petite boutade. C'est dommage.
Moi, je suis boutologue.
Je m'inquiétais qu'il vienne pas. En fait,
quand je suis en retard, on peut pas parce que sinon c'est super triste.
J'aime bien aussi. Je viendrai de temps en temps faire le.
Avec plaisir.
Donc, moi, j'ai eu un accident il y a 13 ans. Donc, je vois l'évolution en 13 ans. Et vraiment, il y a eu de gros changements. Mais on partait de loin. On partait de très loin. Donc, il y a une feuille de route qui a été tracée. 2003 a été décrétée année des personnes handicapées par Jacques Chirac, président de l'époque. Vraiment, il y a eu un petit déclic à ce moment-là. Et suite à ça, 2 ans après, il y a eu une loi handicap, social, intégration scolaire des enfants handicapés avec des assistants pour les cours, etc., etc. Il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Donc, il y a une feuille de route qui est tracée. Par exemple, pour 2015, tous les établissements recevant du public doivent être en accessibilité, mais chacun y va de sa petite dérogation pour éviter d'engager les frais, pour éviter juste de se poser la question parce qu'ils ne connaissent pas et que c'est plus simple de traiter les sujets qu'on connaît plutôt que de se plonger encore dans une nomenclature, dans un pavé dont la France est coutumière. Parce que oui, sur l'accessibilité du bâti, par exemple, l'architecte, il dit, même s'il a envie de faire un truc accessible et sympa, c'est une contrainte. Alors, il y en a certains qui arrivent à dépasser ça et à trouver que dans cette contrainte-là, il y a peut-être quelque chose à trouver qui en devient quelque chose d'esthétique. Et après, c'est une question politique, effectivement. C'est pas draguer les électeurs. Je pense pas que ce soit draguer les électeurs. Il y a eu une conscience qui a été prise à un moment où... Je me rappelle de cette année 2003, il n'y a pas une journée sans qu'il y ait un sujet aux informations 20h, la grand-messe du journal, sans qu'on parle du handicap. Insertion professionnelle, le sport, la médecine, les évolutions.
Ce que je voulais dire, je vais vous donner un exemple, ou du moins je vais vous poser une question là-dessus. Vous qui êtes président de Handisport Montpellier, est-ce que le montant des subventions des collectivités territoriales ou des ministères, je ne sais pas de qui vous recevez, mais vous devez sûrement recevoir des subventions. Est-ce qu'elles sont plus élevées les années électorales ou pas ? Les années à élection ou pas ? Est-ce que vous êtes davantage sollicité par le politique les années à élection ou pas ?
Comme tous.
Elle était ouverte, là elle se ferme un peu ma question, mais...
Comme tous, ni plus ni moins, ni plus ni moins.
Ah oui, non, je ne dis pas que vous êtes les seuls. Hein. Ah non, de là, c'est souvent...
Surtout dans ce pays qui pratique le clientélisme, surtout vers Montpellier. Quand même.
Mais non, à un moment donné...
Un politique, par définition, il s'intéresse à la cité, et dans la cité, il y a des gens qui vivent des minima sociaux, il y a des gens qui sont handicapés, il y a des gens qui sont pompiers, policiers, donc ils sont obligés de s'intéresser à tout.
Alors, attendez, la question n'est
il
pas...
Il va encore la faire bien encore plus.
Elle est peut-être trop ouverte ou elle est mal comprise. Le but ici, c'est pas d'aller flinguer tel ou tel, on s'en fout. C'est simplement de dire, est-ce qu'il y a une politique par financement public qui est cohérente sur du long terme, avec du développement, etc.
Ou est-ce que c'est
du coup par coup, avec un grand coup parce que là c'est une année électorale, un petit coup après parce que bon, ça nous intéresse moins sur le point de vue électoral, ou en tant que président du conseil général, régional, ministre des sports, enfin peu importe, je sais pas qui vous finance, mais la question m'intéresse pas tellement celle-là du coup, mais savoir si ils vous inscrivent dans un projet global en termes de financement, c'est-à-dire voilà, nous on aimerait développer votre club handisport, etc., parce que sur la base de ce que vous disiez en début d'émission, 1% de personnes qui pratiquent un sport, et on veut un développement, et donc on fait un plan à longue échelle, je veux dire, peu importe les années électorales ou pas, mais on se donne des objectifs et on vous aide à y parvenir, etc. Ou est-ce que bon, on finance un petit peu au coup par coup et avec une certaine variabilité, oui. Voilà, selon les échéances électorales. Voilà, voilà. Alors, je m'arrête là.
Voilà. Pour répondre, je vais d'abord donner quelques chiffres pour avoir une idée. Comme disait Jean-Marc tout à l'heure, pour aller courir, à la limite, pionnier, on peut y aller. Bon, une bonne paire de baskets est conseillée. Moi, si je veux faire demain de la natation, j'ai besoin de rien. Je suis paraplégique, j'ai besoin de rien. Je me mets à l'eau, éventuellement on m'aide à me mettre à l'eau, voilà. Si je veux faire du ski, parce que le ski, fauteuil ski ou ski, etc., se pratique tout à fait. C'est un appareil que je dois prendre. C'est pas juste une paire de skis. C'est un appareil, une sorte de coque. Ça coûte 3 500-4 000 euros. Si le sport que je pratique le plus, c'est le tennis. J'ai besoin d'un fauteuil de sport de tennis. C'est 3 500 euros. C'est pas juste une paire de tennis et une raquette. Donc l'existence même de notre club, le Montpellier Club Omnisports, c'est justement d'avoir du matériel mutualisé, parce que les gens ne peuvent pas eux-mêmes forcément toucher à tous les sports ou avoir les moyens d'investir dans un seul sport, mais dans ce montant de
dépenses, ça serait trop onéreux.
Ça serait trop onéreux. Donc voilà, ça coûte très cher certaines aides techniques. Donc on est obligé d'être aidé. Et effectivement, on a des aides, principalement de la ville, de la mairie de Montpellier, qui reconduit d'année en année et qui nous permet de proposer une adhésion à un tarif à peu près correct par rapport aux vrais besoins et aux vrais coûts de ce que représente l'utilisation du matériel. Donc après, c'est au coup par coup un petit peu aussi. C'est en fonction des connaissances. On est un pays de réseau, il faut connaître des gens. Il y a des périodes plus ou moins propices. À l'époque où Jean-François Lamour était ministre des Sports, il a décidé d'aligner les primes des Jeux Paralympiques sur celles des Jeux Olympiques. C'est-à-dire qu'une médaille d'or paralympique ou une médaille d'or olympique, de nos jours, depuis quelques années, c'est 50 000 euros, je crois. Une médaille d'or, après c'est 30 000 pour une médaille d'argent, et ainsi de suite. C'est aligné. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà une reconnaissance. Avant, en fait, avant c'était 5 000 euros. C'était facteur 10.
Ah, oui.
Et donc, à un moment donné, Jean-François Lamour, sensibilisé un petit peu, s'aperçoit que le sportif qui arrive à faire un exploit, quel que soit son handicap ou la discipline, quand on est le meilleur de la planète à un moment donné, ça mérite quelque chose. Bon, une reconnaissance financière, c'est une chose. La reconnaissance des médias, je l'espère, un peu plus significative dans les années à venir. On va dans ce sens-là. Donc voilà, il y a, en fonction des gens qui sont aux commandes, à un moment donné, mais il y a des petites avancées. Donc c'est pas de la continuité politique, mais quand même, depuis 10 ans, il y a régulièrement des coups de pouce pour aller vers une régularisation par rapport à une situation qui était, à mon sens, anormale. Et là, je laisse la parole à Jean-Marc.
Arnaud a déjà bien brossé la... Donc le paysage, quand la question du politique du sport, bon, effectivement, il faut la situer à différents, elle se situe à différents niveaux. Si on se situe donc à l'échelon national, bon, il l'a bien dit, donc c'est sous le gouvernement de Chirac, notamment par donc Jean-François Lamour, qu'effectivement il y a eu une politique d'impulser sur la question de la reconnaissance de l'athlète handicapé, sur son intégration. Aujourd'hui, il y a une volonté affichée pour qu'effectivement les clubs dits valides accueillent des personnes handicapées, donc la notion de proximité. Donc il y a effectivement, depuis un certain nombre d'années, donc des mesures prises en faveur donc des personnes handicapées. Alors, et tout le monde sait qu'entre les orientations politiques, les mesures qui sont donc annoncées, et puis ensuite les faits, c'est-à-dire ce que l'on peut constater en termes d'accessibilité notamment, bien, il y a des décalages.
C'est moins rapide que la crise financière. Ouais.
Exactement. Alors voilà, donc à l'échelon national, effectivement, on voit que il y a donc des orientations qui ont été prises en faveur donc de cette reconnaissance de l'intégration de la personne handicapée. À l'échelon local, pour ce qui nous intéresse, nous. Et je pense que c'est valable quel que soit donc, le lieu géographique. C'est vrai que là, on s'inscrit dans une continuité. C'est vrai que le Montpellier Club Handisport a toujours eu cette reconnaissance par la ville de Montpellier et a une aide. Donc, nous sommes aidés financièrement. Je pense que sur cette question-là, on a une certaine forme de reconnaissance. Voilà. Donc, on est reconnu comme étant un club qui pourtant ne fait pas beaucoup de compétitions, mais qui a une utilité sociale, on va dire.
C'est deux démarches différentes, parce que dans un cas, on veut reconnaître les athlètes qui réussissent les Jeux paralympiques. Donc, c'était une politique un peu élitiste.
Non.
De la même manière qu'il y a deux types de pratiques de sport. Il y a la pratique de sport large spectre pour un peu tout le monde, parce qu'on pense que faire du sport, c'est quelque chose de loisir, c'est quelque chose d'important pour la société, pour le développement de chacun. Et pareil, la politique de Montpellier, d'après ce que je comprends, c'est qu'elle pense que ça a une utilité sociale, donc que tout le monde puisse avoir accès au sport, enfin dans la mesure des moyens disponibles. C'est quand même deux choses différentes. Un, ça serait plutôt utiliser un peu comme vitrine quelques athlètes du paralympique. Et
quel que soit le sport, on a des athlètes de haut niveau et puis le pratiquant du dimanche.
Est-ce que c'est pas le... Alors là, c'est moi qui vais te répondre. est-ce que c'est pas le grand débat,
débat
sur les
sport.
Équipes nationales valides, c'est-à-dire tout le pognon qu'on met dans les grandes équipes, etc. Mais la médiatisation de ces grandes équipes font que ça génère un engouement chez le sportif lambda dont nous sommes. Quoi. Est-ce que pour si effectivement on médiatise davantage les Jeux paralympiques par exemple, est-ce que ça va pas permettre à des personnes handicapées de se diriger un peu plus vers le sport à petit niveau, bien évidemment, je sais pas, c'est la même question, je trouve.
On a entamé notre discussion ou nos échanges sur la question des obstacles, donc le sport, est-ce que le sport pour personnes handicapées, on a parlé à un moment donné de méconnaissance. Effectivement, on a besoin du sportif de haut niveau, paralympique en particulier, et il faut savoir que c'est en 92 par donc la médiatisation des Jeux paralympiques, puisque nous étions donc à l'époque organisateurs des Jeux paralympiques d'hiver, des Jeux
Albertville,
tout à fait. Eh bien, ça a été véritablement en France le moment où on a pu montrer au public que des personnes à mobilité réduite pouvaient pratiquer du ski. Donc c'est effectivement cette vitrine, on en a besoin, et le développement du sport pour les personnes handicapées aujourd'hui à l'école, le fait qu'effectivement des clubs comme le nôtre donc sont aidés par les collectivités locales, c'est qu'à un moment donné on a porté justement à la conscience des personnes via le sportif de haut niveau qu'effectivement c'était possible et que ce sport avait aussi un intérêt sur le plan de la santé, sur le plan de l'insertion sociale, etc. Effectivement, on a besoin de cela. Qui est-ce qui irait s'intéresser à l'activité sportive que l'on va faire dans un centre de rééducation ? On s'en fout, d'accord ? Donc, ce qui importe, c'est effectivement l'image du... Il n'y avait qu'à voir, à un moment donné, l'image que l'on présentait dans les sports qui étaient de démonstration des sports paralympiques dans les Jeux Olympiques, c'était ces athlètes qui couraient donc le 1500 mètres en fauteuil roulant, je ne sais pas, trois roues, je ne sais pas si vous avez cette image, où on voyait finalement des personnes qui avaient des bustes sur des multipliés, donc, enfin qui étaient massif, très baraqué, voilà. Donc c'était une image qui était magnifique.
Est-ce qu'aujourd'hui il y a un sport sur Montpellier, dans notre club Handisport, qui fait du public, ou que des gens viennent voir comme ils allaient voir Montpellier Handball?
Il faut pas se voiler la face. Il y a quelques sports valides majeurs. Il y a à Montpellier, par exemple, voilà. Qu'est-ce qui déplace les foules? Il y a le handball, il y a le foot, il y a le rugby, la gymnastique rythmique, c'est les parents et les amis.
Tu vois que c'est un sport.
Handisport, c'est un peu pareil, c'est un peu confidentiel. Mais tant qu'on aura 1% de licenciés,
je disais pas
forcément,
qui déplacer les foules, mais qui fait du public, il y a un attrait que vous ressentez depuis quelques années, un certain attrait pour tel sport, au niveau du public. Hein,
dire un sport plus qu'un autre, non. Je pense que c'est pas
au niveau
possible.
Des licenciés, par contre, il y a un sport qui fonctionne.
Au niveau
super
des licenciés,
bien,
oui. Alors, au niveau.
Plus que d'autres.
Alors, je vais donner. Au niveau national, c'est la natation, parce que c'est le sport le moins cher et le plus facilement. Il y a des piscines partout.
Question de coût.
Ah oui, oui, c'est clair. C'est et puis, il y a, non, il y a quand même un deuxième élément.
T'as
c'est
pas
dans l'eau. Dans l'eau, on se retrouve avec une aisance de mouvement qu'on n'a pas forcément sur le sol ferme. Donc, ça fait du bien de se sentir évoluer en 3D alors qu'on est en fauteuil roulant ou qu'on est. Voilà. Donc, il y a ça. Après, au niveau régional, il y a deux activités en Languedoc-Roussillon qui sont quand même plus représentées que d'autres.
C'est le tennis de table.
Le tennis de table et le tennis, effectivement. Bah,
justement, puisqu'on parle de tennis de table, peut-être que ça pourrait être le moment de parler de tennis de table dans le handisport.
Donc, Lise Savoyer, je suis entraîneur au Montpellier Club Handisport depuis maintenant 2 ans. J'étais stagiaire ici pendant ma licence TAPS APA à Montpellier. Et voilà. Quand vous commencez une partie, vous commencez avec combien de balles dans le panier ? On prend toutes les balles en fait, parce que du coup ça évite après de les ramasser tout le temps, parce que c'est vrai que c'est assez contraignant de toujours ramasser toutes les balles entre chaque point. D'accord. Et est-ce qu'il y a des règles un peu qui changent au tennis de table ? Oui, il y a la règle notamment du service, c'est-à-dire qu'il faut que le service soit sur le joueur, donc ne soit pas sortant au niveau des lignes de côté. Et mais après, dans le jeu, tout est permis, quoi. Donc les petites chandelles dans le filet, les balles qui reviennent dans notre camp après... Tout est permis, à part, il y a juste cette histoire de service qui change par rapport au valide. Pour la compétition, les niveaux, comment ça se passe ? En fait, il n'y a pas de classement comme en valide où on est 60, 70, quelque chose comme ça. C'est surtout des classifications par rapport au handicap, c'est-à-dire qu'on va avoir une feuille testing, ce qu'on appelle un testing. Une carte verte qui va dire, voilà, on est 1, 2, 3, 4, donc sachant que ça va de 1... De 1 à 5, donc le 1 généralement sont les tétraplégiques et les tétraplégiques et les 5 sont souvent des personnes qui sont paraplégiques avec abdos. Enfin, il y a des classifications comme ça en assis et en debout, c'est de 7 à 10. Donc voilà, on est classé selon son type de handicap, mais après forcément il y en a qui sont numérotés, il y a pas mal de. Dans la région, il y a à Mogio, il y a 2 personnes qui ont fait les derniers championnats par. Jeux paralympiques et qui ont fini respectivement deuxième et troisième. Donc voilà, à part le testing, il n'y a pas de classement numéroté. Et est-ce que par rapport au classement qu'il y a et aux joueurs qui atteignent un sacré niveau, est-ce qu'ils peuvent après prétendre à être prof de sport ?
Entraîneur, ouais. Je pense qu'il faut quand même un diplôme, mais je ne suis pas sûre, quoi. Mais c'est vrai que si c'est quelqu'un de haut niveau, il a une bonne réputation déjà pour ouvrir un club et puis que t'as... parce qu'on peut très bien être en haut niveau mais ne pas savoir entraîner aussi, c'est ça, on peut être joueur et pas forcément entraîneur, donc soit il ouvre son club et il va demander à un entraîneur extérieur de venir, soit il le fait lui-même, comme ce qui se passe à Mogio, ce sont les 2 personnes qui ont fait les Jeux Paralympiques qui sont entraîneurs là-bas, qui ont monté leur club en fait.
D'accord. Alors là pour le cours d'aujourd'hui il y a vous qui êtes la professeure plus 2 intervenants, alors vous allez jouer un match comment là?
Moi, je vais jouer en assis. Enfin, je vais jouer assis contre Didier. Parce que lui...
Didier, lui, il est assis.
Lui, il est assis, voilà. Il est en fauteuil, il est paraplégique. Et il peut se lever quand même, avec abdos. Et donc, moi, je vais jouer contre lui en fauteuil. Parce qu'il aime bien faire des petites chandelles, des petits machins, comme ça. Lui, ça lui permet de me mettre la mine, comme on dit. Voilà. Et par contre, je joue en debout contre Yves. Non, il est en fauteuil électrique. Oui, avec assistance. Mais par contre, lui, le problème, c'est qu'il n'a pas beaucoup de mobilité au niveau des bras, donc il a seulement un geste possible. Donc il faut vraiment jouer sur une partie de la table. Et là, je vais jouer en debout contre lui, parce qu'assis, je n'y arriverai pas. Quoi. Donc pour que lui puisse renvoyer la balle et que moi, je puisse bien lui placer là où il faut, il vaut mieux que je sois debout.
D'accord, merci.
Ouais, je vous en prie.
Bon match. Donne-toi du courage, Yves! Allez! Allez, joue! Excuse-moi.
Si on je quitte, si on je quitte. O-A-Q-A-D.
Wakadi, un pas de côté sur l'actualité sociale.
Wakadi, ça veut dire on a quelque chose à dire. Mais justement, nous, on a quelque chose à dire.
Un pas de côté sur l'actualité sociale.
Et nous voilà de retour donc pour évoquer alors dans les dernières minutes d'émission un sujet qu'on a un petit peu évoqué en filigrane un petit peu tout au long, c'est le rapport de la personne valide, dit valide ou bipède, et de la personne porteur d'un handicap. C'est-à-dire on voit bien, il y a des reportages, je crois, montrer ça, c'est-à-dire comment un entraîneur pouvait entraîner des personnes qui étaient porteurs de handicap alors que l'entraîneur n'est pas lui-même porteur de handicap, comment il appréhende lui-même le fait d'enseigner un sport avec des techniques qui, je pense, doivent être particulières selon son handicap, etc. C'est-à-dire, est-ce que ça s'apprend? Est-ce que... voilà, c'est tout ça. Encore une fois, j'ouvre et après je refermerai.
Alors, pour illustrer, je dirais, au Montpellier Club Handisport, on a 12 disciplines. Sur les 12, il y en a 2 qui sont entraînées par des personnes handicapées, qui ont un diplôme d'entraîneur, mais qui sont handicapées. Et la plupart, sinon, sont plutôt des gens valides, qui ont une formation sportive et une formation spécifique handisport. Effectivement, il y a des spécificités liées notamment aux limitations de certains, aux adaptations techniques pour d'autres, etc., etc. Donc, quel que soit le sport, on va prendre le tennis de table, puisqu'on vient d'en parler. Le règlement, c'est toujours la même chose, c'est faut renvoyer la balle de l'autre côté. Mmh. Voilà, on va partir de ça. Un entraîneur de tennis de table va s'adapter à une personne handicapée, à sa pratique. Personne qui fait pas de tennis de table et qui connaît bien le handicap, elle sera bien embêtée pour entraîner le tennis de table. Donc c'est pas incompatible d'être valide et d'entraîner des gens avec un handicap. Il y a une technique à apprendre pour envoyer la balle, c'est la même chose, c'est de la pédagogie, mais de la pédagogie adaptée.
Oui. Alors, c'est la pédagogie adaptée. Moi, ça fait 25 ans donc, que je travaille auprès de personnes handicapées, que j'enseigne des activités physiques et sportives. Et au tout début, justement, on me faisait le reproche qu'il était difficile d'enseigner une technique n'ayant pas finalement mis les fesses dans un fauteuil roulant, par exemple, n'ayant pas joué au basket.
C'était etc. un peu le sens, c'était pas un reproche, mais c'était le sens de ma question.
Alors, et c'est vrai que cette question ne se pose plus aujourd'hui, mais longtemps, c'est vrai qu'elle m'a été posée. Et moi, la réflexion que je me faisais, je me disais finalement, faut-il que je m'anesthésie complètement les bras, le tronc et les jambes pour savoir finalement ce que c'est que nager en étant tétraplégique. À la limite, si on se pose cette question face à des personnes handicapées physiques, pourquoi on ne se la pose pas face à des déficients intellectuels? Bon. Donc je crois que on n'a pas à se la poser de cette façon-là. La question de l'encadrement d'une activité physique donc adapté, donc le tennis de table, ce n'est pas simplement uniquement la connaissance du règlement ou des coups techniques. Ça, c'est vrai que un brevet d'état, donc de tennis de table, va le connaître. Mais il n'est pas simplement question de cela. Il est question d'autre chose, et c'est la question de comment compenser la déficience. Et cette compensation, eh bien, c'est déjà connaître l'origine de cette déficience. Donc, est-ce que c'est un problème de commande motrice, je n'arrive plus à faire mon mouvement de manière volontaire? Est-ce que c'est un problème de sensibilité, je ne sens plus, ou je ne repère plus mon bras dans l'espace, etc., etc. Et ça veut dire qu'à un moment donné, lorsque l'élève ou l'apprenant est en difficulté, la source donc, qui est à l'origine de cette difficulté, eh bien, il faut à un moment donné se dire, est-ce que c'est moi, l'enseignant, qui ne sais pas communiquer? Est-ce que c'est une question de tâche qui n'est pas adaptée? Est-ce que c'est une question de déficit? Et sous très longtemps, j'ai entendu, et encore aujourd'hui, lorsque la personne n'y arrive pas, c'est à cause de son handicap. Donc pour ne pas arriver à cette conclusion hâtive de dire « n'y arrive pas parce qu'il est handicapé », et on l'entend, C'est dire à un moment donné que cela procède effectivement d'une connaissance des pathologies, d'une connaissance de l'activité et d'une connaissance des adaptations. Alors aujourd'hui, on forme des éducateurs sportifs dans le cadre, donc c'est la Fédération française Handisport qui donc organise ces formations. Et puis il y a l'Université des Sports qui aussi forme au niveau de la licence donc des enseignants en activité physique adaptée. On n'aura pas le même niveau de compétence entre quelqu'un qui a fait 3 années d'études avec quelqu'un qui aura fait un diplôme en 1 année. Donc tout dépend là aussi quelle est la mission, l'objectif de l'institution. Mais voilà, donc la question de l'encadrement, eh bien, ce n'est pas parce que je suis moniteur de kayak qu'un jour j'ai réussi à faire du kayak à une personne amputée que pour autant je serai en capacité d'encadrer les personnes handicapées. Ce n'est pas aussi simple que ça.
On me presse sur le temps, mais j'ai quand même juste une petite dernière question à poser. Je vous demanderai de répondre rapidement. C'est-à-dire, est-ce qu'aussi, par rapport... vous n'êtes pas innovant techniquement. C'est-à-dire, sur du matériel spécifique qui aide. Je me souviens, moi, quand j'étais gamin, j'ai vu apparaître, par exemple, pour les coureurs, cette espèce de lame, disons, que je trouvais absolument... je trouvais ça, voilà, que quelqu'un avait réfléchi à mettre ça pour que les athlètes qui faisaient de l'athlétisme a priori courent plus vite, soient mieux aidés dans la course. Est-ce que
qu'on pense,
est-ce que c'est aussi un grand monde d'innovation, que ce soit dans l'entraînement et pour venir compenser à un moment donné un petit truc. Voilà, ma question était super longue, votre réponse devrait être super courte.
Moi, je vais répondre très rapidement. Ça fait des dizaines de milliers d'années que du jour où l'homme s'est mis debout et a pris une pierre comme un outil, il a commencé à évoluer. Handicapé ou valide, c'est pareil. On est confronté à une situation, on essaie de trouver des solutions. Voilà, c'est le propre de l'homme d'être capable de dépasser les problèmes. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
C'est un peu Shadok, ça, mais ça mérite au moins d'apporter une réponse.
Moi, je dirais qu'effectivement, on bénéficie d'évolutions technologiques, et heureusement, elles ne viennent pas de nous, on est dans un système. Par contre, et c'est tout l'intérêt de ce métier, c'est que chaque personne handicapée est différente. Et à un moment donné, l'adaptation que l'on croit commune, eh bien non, il faudra quand même l'adapter à la personne, trouver la petite astuce. Et en ce sens-là, effectivement, on est constamment dans l'innovation. Donc certains appelleront ça du bricolage, d'autres diront de l'originalité.
Bon, ben voilà. Moi j'avais plein d'autres questions, je pense qu'on les posera dans le cadre d'une autre émission. On va vous remercier. Donc je pense que vous avez un site internet à
Handisport www.mch.asso.fr.
Vous ne posez pas la question? Non. Toi t'as un site internet?
Ouais, moi j'ai un site internet.
C'est quoi ton site internet?
Le truc du collectif Retraite 34? Non,
non, c'est www.wakadi.free.fr. Vous pouvez écouter, réécouter les émissions, et vous pouvez aussi les écouter sur Radio Clapas.
Et à la technique, ce soir, c'était Capucine.
C'était Capucine, pour sa première, son baptême, qui s'est très bien ébrouillé, mieux que
nous. Comme quoi, on peut y arriver, même Capucine.
On vous remercie tous les trois. Andreas, tu n'as pas été très bavard, mais comme tu fais partie des Wakadiens, tu reviendras sur le plateau, parce qu'il est hors de question que tu t'en tires comme ça.
Et à bientôt.
À bientôt.
Merci à vous.
Ah oui, si, je voulais un petit message personnel. Je voudrais ne pas remercier Jean-Jacques, ne pas remercier Kevin et ne pas remercier Guillaume de nous avoir laissé tout seul sur cette émission.
Mais c'est, en fait, sans eux, c'est quand même plus peinard.
C'est vrai. C'est vrai
qu'on quand même plus agréable. À l'aise. On est mieux.
Puis je suis sûr que l'émission sera beaucoup plus pertinente que
On a moins de questions cons, voilà. C'est déjà ça.
Grâce à ça, ça vous évite une sortie à la Jean-Jacques qui voudrait que vous sortiez en dansant, etc., etc. Ce que nous ne ferons pas. Allez, au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.